Avoir élevé un enfant pendant toute sa jeunesse jusqu'à son adolescence, vous lui avez donné tout l'amour que vous pouvez, vous avez essayé de lui transmettre les valeurs qui sont importantes pour vous. Vous rêvez que cette personne-là se taille une place dans la société, elle a des rêves. Vous la voyez grandir, ça va relativement bien. Puis là, du jour au lendemain, vous vous rendez compte que dans votre dos, à votre insu, votre enfant est allé piger des idées radicales, des idées extrêmes, et du jour au lendemain, vous perdez votre enfant. C'est ce qui est arrivé à deux mères qu'a rencontré le journaliste d'enquête et chroniqueur pour le réseau Cogeco, Fabrice de Pierrebourg. Ces deux mères sont à la recherche de leurs filles qui sont parties rejoindre l'État islamique il y a quelques années. Fabrice de Pierrebourg, bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour.
D'abord, peut-être nous remettre dans le contexte un petit peu, parce que présentement, il y a plusieurs Canadiens qui sont à l'étranger, notamment au Moyen-Orient, qui sont partis rejoindre les rangs de Daesh.
Difficile à savoir le nombre, hein, parce qu'il n'y a pas de contrôle aux sorties dans les aéroports canadiens. Mais on estime qu'il y en a environ 150 qui seraient partis majoritairement, je dirais, 2014-2015. Là-dedans, il y avait une trentaine de Québécois, garçons et filles, la plus venait de Montréal. Puis on se souviendra de l'épisode de janvier 2015, quand plusieurs étudiants au cégep, entre autres de Maisonneuve, avaient quitté. Et quelques semaines plus tard, la GRC en avait une dizaine in extremis à l'aéroport de Montréal-Trudeau. Moi, c'est un sujet qu'on aborde toujours sous l'angle, moi le premier, policier, judiciaire. Mais je trouvais intéressant de me mettre dans la peau des parents de ces jeunes, vous l'avez dit, qui, un beau matin de janvier, se sont réveillés et leurs enfants n'étaient plus là. Ils étaient persuadés qu'ils étaient partis coucher chez des amis ou dans un chalet avec d'autres amis. Et ils apprennent par un texto, souvent le lundi ou le mardi, « Bonjour papa, bonjour maman, je suis en Syrie, venez plus me chercher ». Donc on a rencontré deux mères qu'on a baptisées Anna et Elsa. On a modifié leur voix, je tiens à préciser, pour des raisons de confidentialité. Et la première chose qu'on leur a demandé, c'est racontez-nous un petit peu la dernière fois que vous avez vu votre enfant. C'est le premier extrait que je vous propose.
On n'a vu rien venir. On ne s'attendait pas qu'elle parte. On n'a rien remarqué, aucun changement sur son comportement. Elle était toujours toute gaie, toute contente. Quand elle rentre à la maison, ça fait la joie de. Ça fait notre joie à la maison, ça comble la maison. Elle nous parlait de partir en vacances au lac pour passer des journées. On s'est dit que c'est bon pour elle. Elle va se détendre après une session vraiment trop chargée. Elle était trop bonne à l'école. Très bien éduquée. Je ne sais pas comment ils ont pu leur mettre ces idées en tête. Ils sont partis. On s'est réveillés le samedi. On n'a pas vu notre fille. Elle était au lac, c'était correct. Puis, elle nous les a écrit le lundi. C'était un texto où elle nous a dit « Maman, je suis en Syrie pour aider les petits-enfants. » Je ne savais pas quoi dire. Puis, on restait toutes émues. J'avais mon mari qui a vraiment reçu le coup. Puis, elle a réagi plus vite que moi, parce que moi, je suis restée comme... Je ne savais pas quoi faire. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas compris qu'est-ce qui se passe.
Elsa, vous, vous souvenez pareil la dernière fois que vous avez vu votre fille, puis comment vous avez su qu'elle était en Syrie?
À vrai dire, c'est le même choc. C'était un vendredi. On s'est dit chacune de parce que moi je vais partir en travail. Et elle m'a dit voilà bonne journée comme d'habitude. C'était la dernière journée. On s'est quitté vers peut-être vers 9h30 parce que moi je sors pour prendre l'autobus. Et l'après-midi, le soir, quand on est rentré, on attendait ma fille, tout le monde, sa sœur, toute la famille, mais elle n'est pas là. Et après, ma fille, sa grande sœur, elle a eu un texto de son amie, comme quoi elle va passer la nuit chez elle. On s'est dit, c'est pas grave, elle va changer les idées. Le lendemain, tout le monde attendait ma autre fille. Mais elle n'est pas là encore. Je commence à paniquer. Je commence parce que c'est la première fois qu'elle est arrivée. Parce que moi, je connais l'autre parent. Là, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Là, c'était le vrai choc.
J'imagine que suite au choc, Fabrice, les parents ont dû commencer à remuer ciel et terre pour tenter de retrouver leur fille.
Ah oui, c'est vraiment le mot. Ça a été une véritable course contre la montre, ce que m'ont expliqué. Évidemment, ils ont appelé le SPVM, la police de Montréal, ils ont appelé la GRC, qui gère tout ce qui est lutte au terrorisme à travers l'équipe intégrée de sécurité nationale. Comme elles recevaient des textos, leurs filles disaient qu'elles étaient en Turquie. Elles se sont dit, mon Dieu, on va pouvoir les géolocaliser, puis les arrêter immédiatement avant qu'elles soient entre les mains de passeurs, puis qu'elles rentrent en Syrie, puis qu'on les perde. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Elles ont disparu en territoire syrien. Bon, depuis ce temps-là, à un moment donné, les deux filles ont continué de donner des nouvelles à leurs parents, comme d'autres enfants, de façon sporadique. La première, Anna, n'a plus de nouvelles de sa fille depuis l'été 2017, la chute de Mossoul. Moi, quand je suis parti en Irak à nouveau en mars dernier, j'ai essayé de retrouver sa fille. C'était une mission un peu impossible. J'étais parti avec une photo. Je suis allé dans le quartier où elle l'aurait été pour la dernière fois. Ce quartier-là était réduit en état de gravats. Il n'y avait plus aucun immeuble qui tenait debout. On ne sait pas ce qui est advenu d'elle.
Et Fabrice,
sa mère,
Fabrice,
évidemment, essaie de garder espoir. Pareil pour la deuxième, qui, elle, a des nouvelles encore plus récentes, mais elle ne sait pas où elle est. Elle ne sait pas si elle est en Syrie, en Irak ou en Turquie. Elle sent que sa fille veut revenir, mais qu'il y a quelque chose qui l'empêche de revenir. Elle ne sait pas quoi. Est-ce qu'elle est retenue par la personne avec qui elle est? Est-ce qu'elle n'a plus de passeport? Parce que souvent, évidemment, ils font disparaître leur passeport. On va écouter cet extrait.
Mon Dieu, moi, j'ai l'impression, des fois, derrière ces messages, c'est à la peur. J'ai l'impression que tout le temps, il y a quelqu'un derrière elle. Parce qu'il y a des messages où vraiment, c'est le manque de famille, c'est le papa, le frère, la sœur. Oui, c'est, j'ai l'impression qu'elle veut revenir, oui. Parce que c'est...
Mais elle a peur.
Elle a peur.
Vous, dans votre esprit, si elle était libre de ses mouvements, elle serait peut-être déjà à Montréal.
Oui. Ah oui. Parce que quand même, elle m'a demandé une somme d'argent que... J'ai l'impression qu'elle veut, retourner. C'est ça. Avant, il nous disait que on préparait le retour des jeunes. Vraiment, c'était un espoir pour nous. Il préparait le retour, voilà, les psychologues, tout ça. Mais hop, tout à coup, tout a changé. Ils sont partis à Ottawa pour se renseigner. On s'est rencontrés avec eux. Voilà, c'est la mauvaise nouvelle qui nous disent qu'ils peuvent pas les faire retourner.
Fabrice, est-ce que je peux me permettre une question? Il y a longtemps là, que vous travaillez dans ce genre de dossier-là, et moi, j'arrive toujours pas à comprendre ce que les parents viennent d'expliquer dans le premier extrait, là, à savoir que le comportement n'avait pas changé, c'était des jeunes filles qui avaient des vies normales, même avec un certain succès. Oui. Comment ça arrive, cette affaire de radicalisation? Qu'est-ce qui se passe pour que ça arrive?
Ah, Luc, vaste programme. On dit toujours qu'il y a autant de façons et de manières de se radicaliser qu'il y a d'individus. Puis moi, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. J'ai sorti un livre il y a un an là-dessus qui portait sur ces jeunes dans Montréal dont l'image, justement, ne correspond pas à celle qu'on se fait de ces djihadistes. C'est-à-dire que c'était pas du tout des jeunes en état d'exclusion sociale, pas scolarisés, en situation d'échec scolaire, criminalisés, pas du tout. Au contraire, il y en avait qui avaient des quotas de 32-33, ils étaient en sciences de la santé, sportifs, et ainsi de suite. Les parents avaient quitté certains pays étrangers pour leur offrir une vie meilleure. Et puis moi, je peux vous assurer qu'effectivement, tout allait rondement. Mais ils sont arrivés à un moment donné, puis c'est la question aussi que j'ai posée au maire, puis qu'on entendra peut-être juste après, c'est qu'est-ce qui s'est passé? On sait que la propagande du groupe armé État islamique était super efficace. Moi, je l'ai vu, je travaille beaucoup là-dessus. Mais ça prend aussi parfois des relais locaux.
Alors, mais super efficace, Fabrice, super efficace dans quel sens?
Ben, ils savaient toucher des points faibles. C'était jeunes qui avaient 18-19 ans. On a tous eu 17-18-19 ans. On a tous eu des idéaux, on a tous eu des idées révolutionnaires, etc. Puis en même temps, il y avait une situation locale ici qui était particulière. Et moi, je dis, ça a été une conjonction. C'était des jeunes qui cherchaient forcément quête d'identité, peut-être des néo-religieux, des born again, un peu comme on dit, là. En même temps, il y avait tout le débat sur la charte des valeurs ici qui avait été pas mal instrumentalisé d'un point comme de l'autre. Et ils en étaient venus à une idée, à un sentiment d'exclusion. Je dis, un sentiment d'exclusion. Puis, en même temps qu'on leur disait, vous avez plus votre place ici, ben, il y avait des gens qui leur disaient, oui, mais là-bas, il y a du monde qui souffre. Ils ont besoin de vous. Et moi, je suis persuadé que la plupart des jeunes qui sont partis, ils ne sont pas partis dans l'idée d'aller là-bas, prendre une AK-47, tirer sur du monde et se comporter comme des bouchers. Ça, j'en suis intimement convaincu. Il y en a, oui, qui sont partis. Oui. peut-être pas d'ici, plus d'Europe, là, donc ceux qui viennent de milieux plus durs, là, qui étaient en phase criminelle. Donc là-bas, finalement, c'était que la poursuite. Moi, je pense, je maintiens que la plupart des jeunes de Montréal, ils n'étaient pas dans ce profil-là. Alors, c'est sûr que la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un, plusieurs personnes ici, qui ont un peu joué sur ces boutons-là pour faire le dernier déclenchement, leur dire ah, « maintenant, il faut partir ». Peut-être, on va peut-être l'écouter, cet extrait-là.
Oui, on va l'écouter.
Ils ont pris une lourde décision sans l'avis de leurs parents, parce que quand tu élèves un enfant, tu mets un enfant en monde, c'est pour bien l'éduquer, c'est pour lui montrer les bonnes choses. C'est nos enfants à 18 ans, ils ont pris ces décisions s'il y a quelqu'un derrière eux. C'est pour cela que je vous demande là, est-ce que vous avez peur de ces enfants qui sont passés et vous n'avez pas peur des gens qui les ont endoctrinés, puis ils sont là encore pour faire endoctriner d'autres enfants et les envoyer aussi. La sécurité, c'est le Canada a peur de sa sécurité, on fait revenir les enfants qui sont partis. Ils les ont manipulés ici.
Ben, regardez, nous, parce que on n'a jamais eu... Par exemple, ma fille, là, j'ai jamais eu... Elle m'a jamais dit que... Elle parle pas de la politique, elle parle pas de... Elle était avec ses études, elle avait un avenir, moi, elle avait un avenir, elle veut faire un médecin, elle veut aider, elle veut travailler, elle veut... Mais j'ai jamais eu le moindre doute qu'un jour, elle va partir comme ça.
Puis il y avait une des mères dans le premier extrait, Fabrice, qui disait que le premier texto qu'elle a reçu, c'est « Je suis parti aider des enfants en Syrie ». Donc ça appuie un peu l'idée de l'intention qui n'est pas nécessairement mauvaise et de la véritable responsabilité qui est sur les foyers de radicalisation.
Ça semble complètement fou qu'on entend ça. On dit, ben voyons, mais oui, mais je le sais. Il y en a même une, elle l'avait écrit dans les... Elle l'avait emporté. Il y en a une qui avait emporté des graines de légumes là, parce qu'elle pensait qu'elle ferait un petit potager pour les gens dans le village. Mais ça, eux, ils étaient aux antipodes de toutes les vidéos qu'on pouvait voir du groupe armé État islamique. Eux, ils partaient dans cette idée-là, quoi. C'était vraiment, il y a du monde qui sauve. Puis moi, j'ai parlé avec des jeunes qui ont voulu partir, qui ne sont pas partis pour le livre dont je vous parle, là. Puis elles me disaient qu'ils culpabilisaient. Ils culpabilisaient d'être dans leur chambre à Montréal, bien au confort, pendant qu'ils voyaient des images d'enfants à Alep à l'époque, etc., qui étaient pris sous des bombes. Alors, vous voyez, c'est pas simple. C'est quelque chose qui est vraiment pas évident à décortiquer. Mais c'est sûr que la question, puis on l'entend, elle pose une bonne question. Comment ça se fait que on s'intéresse pas plus à ceux qui leur mettent ces idées-là dans la tête, y compris probablement au Canada? On sait que la police a cherché. C'est pas évident, hein. Faut trouver la preuve hors de tout doute raisonnable pour emmener quelqu'un au tribunal, quoi.
C'est quoi la prochaine étape pour ces mères-là, pour essayer de retrouver leur fille?
C'est pas évident. Pour l'instant, elles se débrouillent. Il y a quand même un point, que je trouve intéressant, c'est comment elles se sentent. Elles se sentent très mal, évidemment. Elles se sentent un peu comme des parias ici, à la fois comme des parents de criminels, qu'on pointe du doigt en disant c'est forcément de votre faute, puis comme des parents d'enfants disparus qui attendent. Il y en a dont la chambre est encore prête. Je ne sais pas si on a le temps d'écouter cet extrait-là qui est assez court, mais je le trouvais assez fort.
C'est difficile pour nous parce qu'on est délaissé. On est délaissé par nos amis, on est délaissé par la société, on est délaissé par tout le monde. On a une étiquette qu'on est des parents des terroristes. Est-ce qu'il y a un parent qui va mettre quelqu'un au monde puis lui dire « Allez, vas-y, tu attaques, tu dois être un terroriste ». Je ne pense pas qu'il y ait un parent au monde qui va mettre un enfant puis l'engager dans le terrorisme. Jamais, jamais depuis 4 ans, on a fait une nuit au complet sans qu'on se réveille, puis on se demande qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on vit tout ça? Pourquoi on est tellement malheureux? Pourquoi notre maison est toute détruite? On n'a plus de vie, on n'a plus de vie.
Il reste, j'imagine, là, une fois que ces parents-là sont brisés comme ça, le seul espoir, c'est peut-être de se tourner vers le gouvernement fédéral, demander de rapatrier les Canadiens.
C'est ça. Les filles en question, elles, on ne sait pas où elles sont, mais on sait qu'il y en a, dont des Québécoises, qui sont entre les mains des Kurdes de Syrie. Puis les Kurdes, d'ailleurs, en ont un peu marre. Ça fait des semaines qu'ils disent « Rapatriez-les, nous, on ne va pas les garder éternellement. Puis jugez-les chez vous, l'ONU le demande. » Alors, les CMR, ce matin, ont lancé un appel en ce sens à Justin Trudeau, puis aussi à la population canadienne. On peut finir là-dessus, si ça vous va.
Nos enfants n'ont pas choisi. Nos enfants ont subi. J'aimerais bien comprendre pourquoi ils ne veulent pas les faire rentrer. Est-ce que vous avez peur de cette poignée de jeunes victimes qui avaient un avenir prometteur, qui sont partis vers le mystère? Ou peut-être vous voulez les punir encore et doublement avec leurs enfants parce qu'ils les ont endoctrinés et jetés en Syrie? Ou parce qu'ils sont des Canadiens de deuxième classe? Ça, je ne le sais pas. Je parle aux parents, au Premier ministre et à toutes les âmes sensibles. Est-ce que c'est humain de les laisser avec leurs petits dans la famine, le froid, la destruction, avec l'approche des fêtes de Noël? C'est cruel. C'est cruel ce qui se passe. On a des petits-enfants. Le Canada aide les petits-enfants. Est-ce qu'eux, ils ont le droit à cette aide-là? Est-ce qu'ils sont des enfants comme tous les enfants du monde entier? Je suis là pour représenter mon enfant, mon bébé, parce que pour moi, elle est toujours mon bébé, mon enfant. Je veux que vous l'aidiez. Je veux que cette torture quotidienne prenne fin. Est-ce qu'ils sont vivants? Cherchez-les. Je n'ai pas vu les 19 ans de mon enfant, ni ses 20 ans, ni ses 21 ans. Monsieur Justin Trudeau, on a mal. Aidez-nous. Pourquoi les bébés restent encore là-bas? Combien on doit encore attendre? Est-ce qu'on peut attendre encore 1 an, 10 ans? Ça n'en finit pas. On a trop mal. Monsieur le Premier ministre, une partie de cette société souffre. Mettez-vous à nos places, au moins pour un soir.
Fabrice, merci, merci beaucoup d'avoir été...
Je voulais juste ajouter une chose, Jean-Simon.
Oui.
La possibilité que Trudeau intervienne pour accélérer le retour de ces gens-là est presque nulle. Parce que
la réaction
au Canada anglais serait explosive. Parce que la façon...
Elle est explosive partout en Occident, hein.
Oui, effectivement. Et la réflexion que les gens font est la suivante. Écoute, elle avait l'âge adulte. Elle est partie à l'âge adulte combattre avec la pire force barbare qu'on a vue depuis des années. On n'a pas envie de la rapatrier.
Mais je termine une parenthèse. C'est que moi, j'ai demandé aux parents s'ils étaient d'accord pour que leurs enfants soient éventuellement traduits devant les tribunaux ici, si on a la preuve qu'ils ont commis des actes contraires, on va dire des actes de crimes de guerre. Ouais. Et ils m'ont dit tous oui. Mais ici, avec la justice canadienne, si c'est le cas, jugé ici, incarcéré ici, mais pas là-bas entre les mains de groupes paramilitaires ou en Irak, par exemple, où ils risqueraient la peine de mort. Donc, c'est pas échapper non plus à ses responsabilités, si c'est le cas, quoi.
Fabrice, merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, Fabrice.
Merci à tous les deux. Merci.
Fabrice de Pierrebourg est journaliste d'enquête et chroniqueur pour le réseau Cogeco. Et la problématique que tu poses, Luc, est reflétée par les auditeurs, notamment dans les textos. Mathieu qui nous écrit « J'ai beaucoup de compassion pour les parents, mais malheureusement, leurs enfants ont fait un choix, celui de s'associer avec des criminels. » Et je pense que c'est ce qui ressort beaucoup. Là, parce que oui, effectivement, pour les parents, c'est un drame épouvantable, sauf qu'il y a une responsabilité qui doit être prise. Et on peut se questionner sur le potentiel de réhabilitation de jeunes filles et de jeunes hommes qui ont passé 3, 4, 5 ans dans des zones de guerre associées à des groupes terroristes.
Mais il y a aussi le fait que les responsabilités ne vont pas uniquement aux parents, loin de là. Je veux dire, ce sont des adultes. Le vrai travail d'un parent, c'est d'élever son enfant pour qu'il atteigne l'âge adulte et qu'il sache agir de façon constructive, quoi. Et quand un jeune a 18 ou 19 ans et qu'il prend une décision comme celle-là, c'est... Regarde, on peut pas faire des exceptions comme celle-là. Ils ont été s'associer à non seulement une entreprise criminelle, mais une entreprise d'une barbarie sans nom.
Absolument, des gens qui décapitent, des gens qui violent en masse, des gens qui font de l'esclavagisme.
Qui détruisent l'art, qui détruisent les antiquités, c'est des barbares de la pire espèce.
Barbare est le bon terme, oui. Je pense que le terme barbare est le bon terme. Midi, on prend une pause, on vous revient après ceci.